Bonjour à vous tous et que les dons merveilleux du Seigneur soient les nôtres à chacun ce matin, des dons qu'il donne à Noël, des dons qu'il redonne à Pâques, la paix et l'espérance. J'aimerais juste faire une petite annonce qui vient du midi et qui va nous encourager. On m'a dit que Carrefour, vous avez entendu parler de Carrefour, c'est pas Carrefour évangélique, hein, c'est le magasin. Carrefour, peut-être vous êtes au courant, vient de signer pour l'achat de, on m'a dit, 30 000 Bibles. Moi, je me suis demandé si ce n'était pas une exagération provençale ou pas. C'est vraiment 30. Fantastique. Alors, moi, j'aimerais vous recommander quelque chose. C'est que nous allions tous, pas en même temps, nous allions tous acheter deux de ces Bibles. Ça ne coûte que le prix d'une tasse de café. Ça va encourager Carrefour a fait une nouvelle commande et ça va leur montrer que c'est demandé et ça va nous obliger nous-mêmes à donner ces Bibles à quelqu'un. Vous suivez bien? Ça nous met au travail et je crois que c'est terriblement important. Alors pensez à ça dans la prière, priez pour cela et pensez à ça de manière pratique. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, que je ne voudrais pas annoncer tout de suite, le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, vous allez dire, mais frère, qu'est-ce que tu veux dire à ce sujet dans un culte évangélique? On n'est pas l'endroit où on parle de ces choses-là. Mais on en parle tellement dehors que je pense qu'il faut parler dedans et savoir d'où ça vient. Alors moi, j'aimerais vous parler d'un sujet lugubre, décourageant, le terrorisme. Vous avez entendu parler de ça? Le terrorisme. Le terrorisme. Et comme quelqu'un a dit, à l'ombre de Caïn, car le terrorisme est devenu quelque chose dont tout le monde parle aujourd'hui. Vous avez entendu parler de Max Gallo, sans doute, membre de l'Académie française et niçois aussi. Il vient de Nice, il a fait son lycée à Nice. Et Max Gallo a dit que nous sommes dans une période vraiment unique dans toute l'histoire du monde. Depuis que deux livres sont sortis, écrits par des non-chrétiens, pour défendre la cause chrétienne dans tous les efforts contre les chrétiens, pour les tuer, pour les massacrer, et ainsi de suite. Et Max Gallo nous dit combien c'est important qu'on soit au courant de ça, donc qu'on intervienne. Alors j'aimerais vous dire que le terrorisme n'était pas inventé par un peuple aujourd'hui. Le terrorisme date du frère d'Abel. Vous vous souvenez du frère d'Abel, pas Abel Geisler, qui fait partie de l'Assemblée ici, mais Abel de la Bible, Caïn. Et pourquoi? Parce qu'il avait la possibilité de dominer, la possibilité d'écraser son concurrent, la possibilité de dire qu'il était là. Et c'est ça un peu l'origine du terrorisme. J'aimerais dire très clairement que le terrorisme n'a pas été inventé par le peuple islamique. Et quand nous parlons du terrorisme, ne prenons pas part pour la droite ni pour la gauche. Dieu ne prend pas part pour la droite ni pour la gauche. J'ai parlé avec un ami arabe que certains d'entre vous connaissez, qui n'est pas chrétien, qui travaille à Satoris. Et avec Hélène, on a parlé avec lui en demandant comment il voyait les événements actuels. Et puis il a dit quelque chose qui était presque une claque pour moi. Il m'a dit, vous vous rendez compte que ce sont des hommes comme vous et moi? Comme vous et moi? Ça m'a amené à dire, mais peut-être un ministère auprès de ces gens, de ces terroristes. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'islam qui l'a inventé. Si vous lisez votre histoire française, vous vous souvenez aussi bien que moi, vous n'étiez pas là, moi je n'étais pas là non plus, mais à Béziers, quand les gens de la ville, les habitants de Béziers, ont voulu protéger les cathares. Et les troupes du roi sont venues disant, on va les tuer tous. Et vous vous souvenez de la fameuse phrase, on va les tuer tous et Dieu choisira qui sont les siens. Alors c'est une des fois où le terrorisme existait. Et n'oublions pas les croisés qui ont existé, ces croisés terribles contre juifs, contre toutes sortes de chrétiens qui n'étaient pas de la même ligne, contre les musulmans, contre tout le monde, afin que les chrétiens retrouvent la propriété à Jérusalem et soient dominateurs à Jérusalem. C'était du terrorisme, ça. Ils ont tué tout le monde qui les empêchait d'y aller, de n'importe quelle persuasion. Et moi, je suis édifié parce qu'un jour, j'étais au Togo, et une sœur là, une sœur du pays même, a dit, nous sommes en train de former une équipe qui va passer dans tous ces pays et demander pardon de ce que les chrétiens ont fait contre les Arabes, contre les islamistes, contre les uns et contre les autres. Nous sommes des fautifs. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est une occasion de faire la distinction entre les vrais chrétiens et les chrétiens de nom, de demander pardon. Il y a tellement de tristes souvenirs plus récemment que cela qui nous rappellent que le terrorisme n'a pas été inventé tout dernièrement. Nous pensons aux tristes histoires de l'armée française en Algérie, de notre vivant à nous tous. Nous pensons à la triste histoire de l'armée anglaise en Irlande du Nord, de notre temps. Nous pensons au Shoah et l'Allemagne. Les racines du tourisme, les racines du terrorisme, Paul en parle assez clairement quand nous lisons dans le chapitre 6 d'Éphésiens 6, Éphésiens 6, 10 à 21, et celui qui écrit ça, c'est un ancien persécuteur des chrétiens. C'est pour ça que j'aimerais juste lire deux versets, ou deux textes, avant de parler avec vous. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament, tout au début, au chapitre 5 du livre de la Genèse. Au chapitre 5 du livre de Genèse. Pardon, au chapitre 6, excusez-moi. Chapitre 6, verset 3. Le Seigneur appelle que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que des filles leur furent nées, etc., etc., l'Éternel, au verset 6, regrette d'avoir fait l'homme sur la terre, son cœur fut affligé. Et puis l'autre passage que j'aimerais vous rappeler, c'est dans Romains, chapitre 1 des Romains, et nous lirons les versets 28 à 29 de ce passage. Romains, chapitre 1, et versets 28 et 29. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à la mentalité reprouvée. Pour commettre des choses indignes, ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidité, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, description de l'être humain. Si nous lisons bien la Bible, nous comprenons qu'il y a un petit mot qui est à la base de tout péché. C'est le mot « pensée ». Le mot « pensée ». Et l'adversaire est en train de faire tout ce qu'il peut pour essayer de gouverner nos pensées. Et le terrorisme arrive du dérèglement de la pensée. Jésus-Christ dit très clairement, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Toi, tu nous as parlé du péché tout à l'heure et de l'importance de la terreur du péché, de combien c'est affreux. Mais bien aimés, nous sommes tous touchés par cela. Nous sommes tous touchés par cela. Et nous avons à prier pour ce monde dans lequel nous sommes, afin que le Seigneur ait la victoire et que le terrorisme soit effacé et tout péché là. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il était meurtrier dès le commencement. Il est menteur et le Père de mensonges. Les terroristes prennent la pensée pour la réalité. Quand vous lisez ces histoires des jeunes Français qui sont allés en Syrie, vous avez suivi cela, qu'il y a 1000 jeunes Français en Syrie, avec des idées qui leur semblent bien. Ils pensent pouvoir vaincre le monde et refaire les choses. Est-ce que nous, on a fait faillite? Est-ce qu'à un moment donné, on aurait eu l'occasion de parler à ces jeunes? Je ne sais pas si j'en ai rencontré, mais je pense à un homme. Quand j'étais étudiant à Sciences Po à Londres, il y avait un cimetière qui n'était pas tellement loin. Et les gens allaient voir ce cimetière. Et dans ce cimetière, il y a la tombe d'un jeune qui était élevé dans une famille chrétienne, qui demandait de l'aide des chrétiens pour vivre la vie chrétienne. Il était déçu, Et ce jeune s'est tourné contre la vie chrétienne, contre Jésus-Christ. Il a formé un mouvement politique. Et ce mouvement politique, vous connaissez, c'est le communisme. Et vous savez qui c'est? C'est Karl Marx. Karl Marx, qui aurait eu l'occasion d'être un chrétien évangélique, peut-être un évangéliste. Et je pense la même manière à tous ces jeunes, à tous ces gens qui sont en train de provoquer du terrorisme maintenant. Il y en avait un, c'est Paul. Tout ce qu'on lit au sujet de Paul respire en menaces et meurtres contre les chrétiens. Vous vous souvenez de cela? Il avait une pensée qui était mauvaise. Et bien aimé, nous sommes là pour témoigner d'une pensée biblique, une pensée de Jésus-Christ, de la justice, du pardon des péchés, de la puissance qu'a le Saint-Esprit de transformer des vies, de transformer des vies. Les amis qui travaillent en Afrique du Nord ont été découragés au long des années de voir si peu de gens qui sont devenus chrétiens. Et puis, il y a quelques 7 ou 8 ans, il y a tout un mouvement qui a eu lieu pour encourager les gens à prier pour le peuple maghrébin. Et vous avez suivi la suite. Au moment, il y avait peut-être 25 chrétiens en Tunisie. Ils savaient combien, au chiffre juste. Guère 100 peut-être en Algérie, et certainement pas 100 au Maroc. Les gens ont commencé à prier. Et aujourd'hui, quelle est la différence? Le Seigneur a travaillé là. Vous avez peut-être entendu parler, Christian, à ce sujet-là. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Probablement 3 000 chrétiens évangéliques au Maroc, entre 80 000 et 100 000 en Algérie, et quelque chose comme 3 000 certainement déjà dans le pays de la Tunisie que nous aimons nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que des gens ont osé prier et prendre Dieu à sa parole, prendre Dieu à sa promesse. Et dans notre moment de prière, à côté, avant le culte ce matin, quelqu'un nous a rappelé, est-ce que nous prenons Dieu à sa promesse? Est-ce que nous croyons que Dieu intervient vraiment? Et dans cette situation de terrorisme qui abîme le monde dans lequel nous sommes, qui nous fait peur quand même, non? Ne pensez pas? Moi, je sais que quand on est allé avec Hélène au sud, à la frontière sud du Liban, il y a environ 2 ans, on était à la frontière là. On avait appris la nouvelle que le président de l'Iran voulait venir avec des jouets pour les donner au peuple, pour qu'ils tuent les juifs. Et les jouets, c'était des bombes, c'était des fusées, c'était toutes sortes de manières. Bien-aimés, on est dans ce monde-là. Et notre tâche, à toi et à moi, c'est d'être des hommes et des femmes de paix, des artisans de paix dans tout cela. Et souvent, c'est parce que la parole était mal semée. Et nous avons une parole. Cette parole est extraordinaire. C'est la parole de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ s'appelle la parole, pas vrai? Vous vous souvenez de cela? Mais la parole a une puissance. Dans Jacques 3, verset 8, nous lisons 2 choses. Et je vous rappelle une de ces choses. La langue est pleine d'un venin mortel. La langue. Quand vous entendez les vidéos, vous avez entendu les vidéos proches de ces gens qui ont été décapités, c'était poignant, c'était terrible de voir cela. Et quand vous entendez les paroles des gens qui accompagnent, combien c'est affreux, des paroles qui ne viennent pas de Dieu, mais qui sont des paroles de destruction, des paroles négatives. Je lis une autre citation de Proverbes 18 et 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Je pense qu'il faudrait commencer chez nous d'abord. Il est facile de dire on veut prier pour le Liban, on veut prier pour la Syrie, on veut prier pour l'Irak. Mais est-ce qu'il faudrait commencer chez nous? Est-ce qu'il faudrait prier le Seigneur que la parole dans ma bouche et dans la tienne soit autrement? Le petit membre, comme la Bible le décrit, la langue, est puissante pour la vie ou la mort, on a lu ce matin. Pour la vie et la mort. Et en ce moment, c'est pour la mort avec le terrorisme. Mais nous avons une parole de vie, de paix, de paix. Et j'aimerais vous encourager les uns les autres. Orange, donc Télécom, France Télécom, doit vraiment faire des bénéfices quand je reviens d'un voyage. Parce que dans les 48 heures après mon arrivée, je travaille avec la liste de membres de l'Assemblée d'ici et aussi un petit peu de Saint-Genis d'ailleurs. Et je dis, Seigneur, à qui est-ce que je devrais téléphoner pour encourager cette personne? Et je donne des coups de téléphone pendant une demi-journée, presque un peu plus longtemps, pour téléphoner aux uns et aux autres et partager une parole de vie, une parole d'encouragement, d'encouragement. Et j'aimerais vous dire que nous n'étions à la maison que quelques heures quand quelqu'un de l'Assemblée a téléphoné pour faire la même chose pour nous. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas savoir combien ton coup de téléphone m'a fait du bien. La parole est une parole de vie ou de mort. Et les terroristes ont la parole de la mort, mais nous avons la parole de la vie, pas vrai? Et la parole de paix à partager les uns avec les autres. Cette parole est puissante dans la Bible. Quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Sa parole a une puissance extraordinaire. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. J'ai souvent pensé, mais j'aimerais être l'homme qui inventerait la manière dans laquelle on pourrait atteler, maîtriser les éclairs et le tonnerre afin d'éclairer une ville. Je gagnerais beaucoup d'argent. Vous imaginez la puissance qui est libérée là quand il y a un orage de ce genre. Puissance extraordinaire. Mais est-ce que la puissance de Dieu n'est pas plus grande que ça? Quand Dieu parle et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et contre nous, que la lumière brille dans nos relations, dans nos paroles, les uns avec les autres. C'est tellement, tellement important. Et puis, quand il y a des impossibilités, vous avez des impossibilités dans votre vie? Vous avez des inconnus dans votre vie? Je vous dis une question que je n'aimerais pas que vous me posiez ce matin. Est-ce que vous avez trouvé où vous allez loger à Nice? Est-ce que je peux vous donner la réponse maintenant? C'est non. Mais on sait qu'on doit y aller. Mais Seigneur, tu vas faire un miracle. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais le Seigneur est spécialiste de miracles. Dans le psaume 33, verset 9, il parle, il dit, « L'Éternel le dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Elle existe. Quelle puissance que nous avons, nous, même vis-à-vis des terroristes. Vis-à-vis des terroristes. J'ai un ami, Philippe Martinez, qui dit, « Mais je ne peux pas demander aux gens de prier pour la Syrie et rester tranquille à Die, en France. » Et Philippe part ces jours-ci en Syrie pour pouvoir encourager les chrétiens. J'ai souvent eu envie de faire quelque chose de similaire. Je n'ai pas eu le courage. Mais nous pouvons prier pour cela. Quand Dieu ordonne, la chose existe. Est-ce que nous croyons que vraiment le Seigneur est puissant comme cela et que notre Dieu est le Dieu de miracles? Le terrorisme. Moi, j'aimerais vous encourager, vous dire que ça va occuper de plus en plus de place dans nos journaux et dans nos messages télévisés. On est dans ce monde-là. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. Il y aura des tribulations dans le monde, dit le Seigneur. Mais j'aimerais vous donner des promesses là quand même. Dans le livre des Proverbes, si nous sommes effrayés, il est dit, l'Éternel renverse le conseil des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Est-ce que je peux le répéter? Les projets de son cœur, les projets de son cœur pour toi, pour moi, restent de génération en génération. Personne ne peut les empêcher. Oh bien-aimé, si vous regardez les informations à 20h ce soir, ou à 19h45 la Suisse, comme ma femme préfère, écoutez, vous regardez, vous entendrez des choses terribles, vous direz, mais ça devient de pire en pire. Mais j'aimerais vous dire, non, ça devient de mieux en mieux. De mieux en mieux. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se donnent à Jésus-Christ. De plus en plus de gens qui se convertissent. Et on est dans cette vie pour cela. C'est notre tâche dans la vie. On est là pour être des témoins et partager la victoire du Seigneur. Il anéantit les projets des peuples. Les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Et quand le Seigneur parle de cela, parle de ces gens négatifs, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, je vous dis d'aimer ceux qui vous maltraitent, d'aimer ceux qui vous maltraitent, ceux qui sont négatifs dans ce sens-là. Priez pour ceux qui vous persécutent. Il est difficile en tant que chrétien actuellement de voir ce qui se passe entre juifs et arabes. Mais j'aimerais vous exhorter de ne pas prendre position. Le Seigneur a promis une bénédiction extraordinaire au peuple juif. On le lit dans le chapitre 12 de la Genèse. Le Seigneur promet la bénédiction à Israël afin qu'Israël soit une bénédiction aux nations. Mais c'est ça le but. Et si Israël n'est pas une bénédiction aux nations, on ne doit pas être surpris si les choses ne marchent pas si bien que cela. Et si dans notre pays, on n'est pas une bénédiction aux nations, ne soyons pas surpris si on vit des moments difficiles. Des moments difficiles. La suite de ce même verset dit, en ce même passage, « Tandis que pour les nations qui maudissent Israël, Dieu s'en charge en stipulant dans de nombreux passages que la vengeance est à lui. » J'aimerais vous dire que personnellement, je ne crois pas que la vengeance soit une tâche pour Israël. C'est l'affaire du Seigneur. Et notre affaire, c'est de prier pour la paix, pas de prendre position. Mais nous oublions cela. Nous oublions les réponses du Seigneur. Je suis toujours assez vieux, je vieillis un jour à la fois, pour me souvenir d'un jour dans l'automne de 1940, quand l'Allemagne avait envahi la France, la Belgique, la Hollande et tout le reste. Et quand l'armée anglaise, l'armée britannique, était coincée avec ceux qui suivaient le général de Gaulle, coincée à la côte derrière Dunkerque. 367 000 personnes, je ne les ai pas comptées, on me le dit. 367 000. Comment est-ce qu'ils allaient sortir? Les services de bateaux n'existaient plus entre les deux pays. Et puis, la mer était souvent très mauvaise. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas parce que c'est le pays dans lequel je suis né, mais le roi du pays, le roi George VI, qui était, je crois, un vrai chrétien, il a promulgué une journée de prière pour toute la nation. Oh, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit annoncé en France. Une journée de prière pour notre nation. Vous ne trouvez pas que ce serait fantastique? Et même une journée de prière pour que tous les chrétiens du pays de Gex prient pour la paix au pays de Gex. Et qu'est-ce qui est arrivé? La mer s'est calmée. Il y a eu un brouillard. Et des bateaux, même des bateaux qui ne pouvaient prendre que 4 ou 5 personnes, ont fait la traversée aller-retour. Et ces 367 000 soldats ont été amenés dans la liberté. Ils ont pu s'échapper sains et saufs. Moi, je ne veux pas parler d'un événement historique comme ça, mais je veux parler du fait qu'on a prié. On a prié. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne devait prier pour la situation avec le terrorisme en Syrie, en Liban? Plusieurs, vous connaissez Sarah, qui vient ici quelquefois. Elle habite chez mes amis à Genève. Son papa est pasteur dans une église à la frontière, à Zahle. Nous sommes allés aussi dans cette église et la frontière. Ils accueillent tous les Syriens qui sortent, qu'ils peuvent accueillir. Est-ce qu'on prie pour cela? Est-ce que nous prions pour les gens qui sont dans cette situation? Alors, bien-aimés, si le terrorisme devait arriver chez nous, ça veut me dire, mais tu es un sacré prophète pour le dimanche matin. Mais moi, je n'ose pas dire le contraire. Ça risque d'arriver chez nous. Ça pourrait arriver chez nous. J'espère que tout mon cœur, non. Moi, je n'ai pas confiance en ma puissance de résister. Je sais que ce serait dur à vivre. Mais si ça devait arriver, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons lire aussi dans le psaume 34 et verset 9. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alors, bien-aimés, ne soyez pas saisis par la crainte. Comment est-ce qu'on dit de ce côté-ci? Le bon mot, c'est la trouille, non? Ne pas être saisis par la trouille, la crainte et tout cela. Le Seigneur est là. L'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, campe autour de tous ceux qui le craignent. Nous sommes de son côté-là. Nous avons reçu un message de délivrance, le message de pardon que nous avons saisi. Et pourtant, j'aimerais vous rappeler comment Paul, était un terrible terroriste pour les chrétiens de son époque. Vous savez cela, hein? Paul était un terroriste de première classe. Je lis ce qu'il dit dans Actes 8, 3 et 9 et 1. Au Saul, ravagé l'église, il pénétrait dans les maisons, on arrachait hommes et femmes, les faisait jeter en prison. Et puis ensuite, il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Le meurtre envers les disciples du Seigneur. Mais Dieu a toujours le dernier mot, comme vous le savez là. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. D'une manière extraordinaire, oh, cet homme extraordinaire, cet homme capable, orgueilleux, fier, dur. Subitement, tout change. Il pensait arriver dans la ville de Damas avec les lettres d'accréditation, d'être accueilli comme un héros. Il pensait cela. Au lieu de cela, il était amené par quelqu'un qui le tenait par la main parce qu'il était aveugle. Et puis, plein de douceur et d'humilité. Dieu peut changer les choses d'un instant à l'autre. Si jamais vous allez en Irlande du Nord, où je suis allé plusieurs fois, vous découvrirez dans les églises de toutes dénominations, il y a des jeunes évangélistes, ou des gens de 40 ans, des évangélistes qui sont très capables, et vous demanderez d'où ils viennent. Une bonne partie, c'était des terroristes de l'IRA qui ont été convertis en prison, qui sont maintenant des évangélistes pour Jésus-Christ. Je crois qu'on doit savoir des choses comme cela. Louez le Seigneur pour cela. Est-ce qu'il ne peut pas encore faire des choses similaires? Il le fait de la même manière. Vous avez appris peut-être aussi par Christian comment en Syrie et aussi en Arabie, à plusieurs reprises, il y a des jeunes soldats qui étaient sur le terrain d'entraînement quand ils ont vu une vision de Jésus-Christ. Vous dites, mais je ne crois pas tout cela. Si vous ne croyez pas tout cela, vous ne croyez pas la conversion de Paul. Vous m'avez entendu? Si vous ne croyez pas tout cela, vous ne croyez pas la conversion de Paul. Si Dieu ne peut pas faire la même chose aujourd'hui, ce n'est pas le Dieu que je connais. Et il y a de nombreux jeunes qui se sont convertis parce qu'ils ont eu une vision de Jésus-Christ. Et ils ont dû crier, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» C'est formidable que le Seigneur ait le dernier mot dans tout cela. Et Dieu est capable de faire les miracles du même genre de nos jours. J'aimerais vous raconter un de ces miracles qui s'est passé chez nous en France, dans le Nord, que nous connaissons bien avec Hélène. Et c'est le pasteur d'une église que je connais depuis des années et des années qui m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, tu sais, dans mon église, j'ai toute une famille d'origine islamique qui s'est convertie. Qu'est-ce qu'ils ont une bénédiction dans l'église. Mais le frère aîné de la famille ne s'était pas converti. Il était violent comme le restant de la famille, contre l'évangile, contre Jésus-Christ, contre la Bible qu'il n'avait jamais lu ni pris dans sa main. Et puis mon ami me dit, mais un jour cet homme s'est trouvé dans une pièce où il y avait un tableau noir. Il ne sait pas pourquoi, mais il a pris un morceau de craie, il a commencé à écrire sur le tableau noir. Et là, il a écrit des versets de la Bible. Il n'a jamais lu une Bible, il n'a jamais eu une Bible entre ses mains. Mais il a écrit ces versets sans les connaître. Et en relisant les versets, cet aîné d'une famille s'est converti. Est-ce que Dieu peut faire des choses comme cela encore aujourd'hui? Si vous n'y croyez pas, vous serez comme le gars qui a demandé à Spurgeon si jamais les gens se convertissaient aujourd'hui. Et Spurgeon a dit, mais tu prêches? Il a dit, oui. Tu crois que les gens vont se convertir après ton message? Non, monsieur, non, non, non. Mais c'est pour ça qu'ils ne se convertissent pas. Hein? Oui, si nous ne croyons pas que Dieu peut intervenir, il n'intervient pas. Il y a un aumônier militaire qui a servi comme aumônier militaire en Irak. Il est retourné dans son pays, les États-Unis. Il a fondé une œuvre qui s'intitule « Adopter un terroriste ». Vous imaginez ça? Une œuvre chrétienne? Adopter un terroriste et prier pour lui. Et prier pour lui. Alors, il est en train de donner des noms aux uns et aux autres. Moi, je n'ai pas de nom de terroriste à vous donner. Hein? Le Seigneur pourrait vous aider là. Mais est-ce que nous pouvons prier? Prier pour que Dieu, qui a promis d'avoir le dernier mot, que ça se réalise, que ça se voit devant nos yeux. Et j'aimerais donner juste quelques remarques en terminant. D'abord, ne jugeons pas le peuple arabe. Ne jugeons pas le peuple arabe. Nous ne connaissons pas tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils vivent. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils ont souffert de la part des nations européennes, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, ils ont beaucoup souffert dans les colonies de nos pays. Ne jugeons pas les Arabes, mais prions pour eux. Il y a un petit livre qui est sorti, que vous connaissez peut-être, « Le musulman, mon ami ». Le musulman, mon ami. Et est-ce que nous pouvons demander pardon quand nous rencontrons quelqu'un qui était blessé? Demander pardon et rentrer en contact avec lui. Je termine juste avant de citer du verset en me rappelant avec Hélène du bateau qui fait le ferry entre l'île de Gorée et la ville de Dakar. L'île de Gorée, il faut y aller au moins une fois de sa vie. Et regarder la porte de sans espérance. Une porte par laquelle passaient les esclaves. Ils savaient qu'ils, s'ils passaient par cette porte pour rentrer dans un bateau, que c'était terminé. Il n'y avait plus de possibilité de libération. Moi, je suis assez grand et je suis allé vers cette porte. J'ai dû me baisser. Et j'ai regardé les pièces dans lesquelles ils étaient tenus jusqu'à la fin. Et j'ai pensé à quelqu'un d'autre qui était rejeté par tout le monde, quelqu'un qui était plein d'amour et qui, ils ont dit, crucifie-le, crucifie-le. Vous connaissez celui-là? Et quand il est sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En revenant dans ce petit bateau vers Dakar, il y avait d'autres touristes. Moi, j'étais pas là comme touriste, mais pour travailler sur le bateau hôpital, Anastasis. Et celui qui pilotait le bateau est venu vers moi. Il m'a dit, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai dit, j'aimerais vous demander pardon. La part de mon peuple, la part de nos nations. J'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un qui nous a pardonné et qui vous aime. Et j'ai pu partager l'évangile avec lui. Alors j'ai deux versets, si mon frère veut les mettre sur le tableau, que j'aimerais que vous notiez. J'aimerais vous suggérer de les apprendre, de les noter, de les apprendre par cœur cette semaine. De les mettre sur, si vous êtes comme les frères béninois souvent, les mettre sur les motos. Et pendant qu'ils conduisent la moto, ils regardent le verset. Et vous pouvez le mettre sur le panneau de bord chez vous, dans votre voiture. Deux versets. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Le psaume 34 et verset 8. Apprenez ça cette semaine. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Exode 14 et 14. Facile à noter cela. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué en parlant de ce thème-là. Et j'ai à cœur de suivre, si Dieu me l'accorde, le temps, la possibilité, en parlant du combat spirituel. C'était le début ce matin, le début de ce combat spirituel. On est dans un combat, et ce combat, la victoire, était à la croix. Et nous allons ensemble prendre le repas du Seigneur maintenant. J'aimerais que un ou deux soient poussés à venir m'aider pour que je ne sois pas seul là. Je ne veux pas prier tout faire. On est une équipe et j'aimerais que d'autres viennent avec moi. Et juste avant de prendre ce repas, j'aimerais relire ces versets de Jean 17 et verset 1 à 4. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon ce que tu lui as donné, le pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » On a reçu la vie éternelle? Si on a reçu la vie éternelle, en prenant ce pain et ce vin, nous allons le témoigner. J'aimerais que vous soyez libres de prier une très courte prière de remerciement, spontanément, pendant que le pain et le vin circulent dans un instant. Oh, la vie éternelle, c'est quoi? C'est une carte verte pour rouler avec la voiture au ciel? C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Dans tout ce qui concerne le terrorisme, tout ce qui concerne les guerres et les problèmes de violence aujourd'hui, le Seigneur a eu le dernier mot. Tout était terminé à la croix. Il a payé pour tout cela. Vous n'avez jamais eu de pensée méchante à l'égard de quelqu'un? Moi, j'en ai eu. Que le Seigneur nous pardonne et qu'on sache que l'œuvre totale était faite à la croix du calvaire. Est-ce qu'il y a deux qui veulent venir me soutenir là?
Seigneur, nous avons reçu ton message ce matin, reçu ce message que tu as donné, ton corps, ta vie sur cette croix. C'est ce que représente ce pain, ta chair qui a été meurtrie, qui a été clouée, qui a été crucifiée. Nous voulons, Seigneur, nous remémorer cela comme tu nous le demandes, mais surtout annoncer ton retour jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Père pour ce sacrifice qui nous apporte la vie, qui nous rapproche de notre Créateur. Amen.
Nos frères ont distribué le pain qui parle du corps de Jésus-Christ qui était rompu pour nous. Si c'est le cas rompu pour toi, prends ce pain et dis merci Seigneur. Même si vous le dites à haute voix, ce serait formidable que chacun soit libre comme le Seigneur lui dit. Et si quelqu'un n'est pas sûr, ne partez pas sans être sûr. Venez voir un des responsables, moi-même je suis prêt à servir, pour que vous puissiez ce matin recevoir ce don de la vie éternelle en Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour nous. Maintenant, on va remercier le Seigneur pour ce sang versé. Ce n'est pas du sang dans ces tasses, ces verres, c'est du vin. Et en souvenir du sang versé à la croix et du fait que le Seigneur pouvait dire, j'ai achevé l'œuvre qu'on m'a confiée. C'est terminé, bien-aimé. Tu n'as rien ajouté. Tu n'as pas te laissé poursuivre par la crainte. Le Seigneur te pardonne totalement, absolument. Tu acceptes son offrande.
Seigneur, on veut vraiment te remercier pour ce sang qui a coulé sur cette croix. Comme l'a montré Pierrick ce matin, ce sang, finalement, quand il se déverse dans nos vies, ben, nous rend pur. Merci parce que on a choisi de te suivre et qu'on voit toute cette action que tu as dans notre vie. Et on veut te remercier parce que c'est pas juste pour une fois, ça a été fait pour toutes les fois, Seigneur. Aide-nous à vraiment nous rappeler de ce sacrifice, parce que on a une tendance à oublier. Merci parce qu'on peut partager ce repas pour se souvenir ensemble de ce que tu as fait pour nous. Amen.
Pendant qu'on ramasse les verres, qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? C'est achevé, l'œuvre que le Père m'a confiée à faire. On n'a rien à ajouter. Est-ce qu'on pourrait dire ces deux versets par cœur? Sont au tableau, je crois, pour qu'on les dise et qu'on les apprenne cette semaine par cœur en disant la référence. L'ange du Seigneur. Moi, je suis tout seul. On le dit ensemble. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34 et 8. L'Éternel combattra pour nous, ou pour vous, et vous gardez le silence. Exode 14 et 14. Voilà un petit travail de joie à faire cette semaine. Et savoir qu'on n'a pas à avoir peur. Mais est-ce qu'on peut adopter quelques terroristes cette semaine et prier pour eux? Quand le Seigneur vous dirige. Merci. Merci à Philippe.
Bonjour. Je partage avec vous les annonces de la semaine. Demain, il y a le Femme Club. À 14h chez... Non?
On fait des visites.
Vous faites des visites. Donc demain, le Femme Club fait des visites. Demain soir, il y a la répétition de la chorale qui va se faire ici chez nous, donc à 20h30, au CEP. Mardi. Alors mardi, c'est bien parce qu'il y a la réunion de prière et puis Brian nous a encouragés à prier. Alors moi, je vous encourage à prier chez vous et à prier aussi dans l'église, à venir aussi à la réunion de prière. Je vais laisser la... Non, vendredi, il y a la... Vendredi et samedi, il y a la banque alimentaire. Jean-Paul nous fera une annonce juste après. Samedi, il y a le groupe de jeunes. Dimanche prochain, thé café. Alors, dimanche prochain, c'est un cinquième dimanche. Alors, il y a un thé café, cinquième dimanche, avec une nouvelle équipe. Pierrick Poquerus, Rémi et Clément qui s'engagent pour faire les thé cafés lors des cinquièmes dimanches. Merci à eux. Et moi, je vous invite vraiment. Merci aussi à Pierre-Alain et Valérie qui font les premiers et troisièmes dimanches et puis qui ont mis en route ce travail. Et moi, je vous encourage vraiment à venir avant pour participer à ces thé-cafés. C'est vraiment des moments très utiles, des moments bénis de partage entre nous, des moments où on a certainement plus de temps qu'après le culte. Alors vraiment, venez, donc c'est à partir de 9h30, vous n'êtes pas obligé de venir à 9h30 précise, vous pouvez venir jusqu'à 10h, pour profiter de la communion fraternelle pendant ces moments. Dimanche prochain, il y a aussi le culte ici, à 10h30, et donc c'est un cinquième dimanche, c'est un culte de partage. Alors on vous invite à réfléchir à ce que vous pouvez partager aux autres, de ce que vous avez vécu avec Dieu. Et vraiment, c'est important aussi de pouvoir partager entre nous de ce que l'on vit, de notre relation avec Dieu. La semaine d'après, c'est la semaine où le mardi, il y a l'étude biblique. Et donc, le mardi 2, l'étude biblique sera sur le thème « Connaître », donc sur le livre « Toujours connaître Dieu », sera sur les chapitres 14 et 15. Les chapitres 14 et 15 qui traitent Dieu le juge et la colère de Dieu. Alors on vous invite vraiment à lire ces chapitres qui sont des chapitres importants et c'est important aussi de bien comprendre comment est-ce que Dieu, qui est tellement amour, peut aussi être juge. La colère de Dieu aussi. Qu'est-ce que ça représente et comment est-ce qu'elle s'articule avec l'amour de Dieu, avec sa bonté? C'est vrai qu'on vit de la grâce de Dieu. Mais Dieu en même temps est juge. Et il y a aussi toute la question de la colère de Dieu. Je ne sais pas si ça vous questionne, moi ça me questionne. Donc on vous invite vraiment à lire ces chapitres 14 et 15. Il y a encore des livres à la librairie pour ceux qui voudraient se procurer le livre « Connaître Dieu » et pour se préparer à cette étude biblique. Ensuite, concernant les nouvelles des uns et des autres, on a une nouvelle triste à partager, c'est que le papa de Lydia, Gilberto, il a eu un AVC mardi. Et donc, il a eu une hémorragie mal située dans la tête. Et les médecins ne veulent pas l'opérer parce que c'est trop délicat, trop difficile. Depuis mercredi, il est dans un coma profond. Et pour le coup, Lydia et son frère Samuel sont partis. Ils sont partis au Paraguay pour rejoindre leur famille. Et c'est vraiment important de prier les uns pour les autres. C'est vrai, quand un membre souffre, tous souffrent. Et c'est important de penser à eux. Et moi, je vous invite peut-être à ce que 2-3 prient ce matin pour Gilberto, pour son épouse, pour cette famille. Parfois, on ne comprend pas toujours tout dans ce que Dieu permet, mais on sait qu'il est au-dessus de toute chose. Voilà, je vous invite peut-être à 2-3 personnes qui prient, et Jean-Paul terminera encore par la prière. Voilà, je vais laisser la place à Jean-Paul qui va nous partager des nouvelles d'Anne-Lise.
Juste avant de partager des nouvelles d'Anne-Lise, juste revenir sur la banque alimentaire. Vendredi et samedi, il y a la collecte de la banque alimentaire. Moi, je suis surpris, un petit peu dommage, je vais dire, du peu de personnes qui sont engagées, qui ont mis 2 heures de temps sur le site pour la banque alimentaire. C'est un truc super que vous n'oublierez jamais, que vous serez venu voir une fois. Un bon exemple, vous avez simplement à être présent. Faire acte de présence pour aider les gens. Ramasser des choses qu'on vous donne, donner un petit papier, donner une petite nouvelle. Allez voir sur le site, il manque du monde pour le vendredi après-midi, le gros de la journée, si on veut, de 11h à 15h, à 16h. Vous regardez sur le carrefour de Sony, les autres magasins, c'est à peu près carré. On a vu ça mardi soir, c'est à peu près carré. Il nous manque du monde sur Sony cette année. On a un petit peu fait autrement. Donc ça nous touche, nous, Église, puisqu'on a la responsabilité de Sony. Prenez une heure, ça suffit, 2 heures, inscrivez-vous, c'est hyper important. Voilà. Et puis deuxième chose, c'est Anne-Lise qui nous a mis un mot cette semaine. C'est un petit peu compliqué, un petit peu confus aussi, comme souvent les explications d'Anne-Lise. Donc Anne-Lise a eu la fin de son procès par rapport à son histoire avec son dentiste, ses dents, etc. Ça semble pas très bon, comme elle nous a dit, pour elle. C'est un peu dans le contraire de ce qu'elle pensait. Bref, mais je voudrais relever 2 points simplement. Anne-Lise dit qu'elle est vraiment en paix, et ça c'est important. Qu'elle a la paix de Dieu pour ça. Et surtout, elle remercie vraiment tous les gens qui, depuis des années, prient pour ce sujet et remettent ce sujet. Mais elle termine en disant, c'est à la gloire de Dieu. Donc voilà, donc Anne-Lise, vous le demanderez après tout, elle vous dira exactement pour les détails. Mais on veut garder ces 2 choses, elle est en paix et c'est à la gloire de Dieu aussi cela. Voilà, merci de penser à elle en tout cas. Elle est spatane, elle n'est pas là, elle est à l'église danoise, elle aime beaucoup, vous savez, participer à l'église danoise en danois, donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas là.
Merci pour ce partage, et c'est vrai, n'hésitons pas à nous engager pour la banque alimentaire. C'est vraiment un témoignage que l'église en général peut rendre, et c'est important d'en profiter, de l'utiliser. Cette semaine, donc comme on vous l'a déjà dit, on vous propose de prier chaque semaine pour un pays dans lequel il y a la persécution. Et donc cette semaine, on vous propose de prier pour la Syrie. Et Brian y a déjà fait quelques allusions. C'est vrai, la Syrie est un pays dans lequel la persécution est vraiment bien présente, dans lequel il y a beaucoup de changements aussi, et dans lequel les événements vont vraisemblablement encore changer ces prochains temps. Donc prions pour la Syrie. Je vous rappelle donc que les calendriers sont aussi disponibles, les calendriers 2015. Concert de Noël. La semaine passée, on a eu les flyers. Maintenant, au fond de la salle, il y a toujours les flyers. Servez-vous-en, n'hésitez pas. Il y a aussi des grandes affiches, des affiches au format A3. Alors, c'est important de les prendre maintenant parce que c'est maintenant le moment de les distribuer, enfin de les distribuer, de les afficher. Si vous connaissez des magasins, des boutiques, des endroits dans vos villages, sur vos portes d'entrée, pourquoi pas, n'hésitez pas, il y en a une cinquantaine qui sont au fond de la salle, derrière le panneau. Donc, ces concerts de Noël vont se dérouler les 6 et 20 décembre. Le 6 décembre à la salle Gaston Laverrière, sur la commune de Prèves-Saint, et le 20 décembre sur la commune de Saint-Genis. Évidemment, concert de Noël, concert, c'est différent de fête de Noël. C'est différent parce qu'il n'y a déjà pas les scénettes, etc. Ce sont vraiment des concerts de Noël qui vont être proposés. Donc, il y aura des ensembles de chants et de musique, musique de Noël, chants de Noël. Cela va durer environ 1h30. Il y aura des chants chorales, environ 60 participants dans la chorale, mais aussi différentes formations vocales, donc des plus petits groupes de chants et des instruments aussi. Il y aura donc beaucoup de variétés, et moi je vous encourage vraiment, ce ne sera pas monotone, et il y aura beaucoup de beauté et de variété. Ces productions seront entrecoupées par un lien qui mettra en évidence le message de Noël et présentera aussi la collecte en faveur des minorités déplacées en Irak. Et cette collecte sera versée à MEDER en faveur de ces minorités, MEDER qui est présent en Irak. Et puis pour le concert du 6, donc le samedi 6, c'est dans un petit peu moins de 2 semaines, il y aura besoin aussi de préparation, il y aura besoin d'aide pour préparer la salle, monter la scène, mettre toutes les chaises, etc. Donc on vous dira encore dimanche prochain à partir de quelle heure, mais samedi matin, 6, prévoyez du temps, prévoyez vraiment du temps pour être présent, pour préparer cette salle. Et je vais laisser la place à Aurélie, qui va nous faire une annonce concernant la suite du concert.
Bonjour. Alors, si avec tout ça, vous n'avez pas réussi à trouver votre place dans le concert de Noël, fête de Noël, j'ai pas le droit de dire fête de Noël, le concert de Noël, il y a encore des petites choses à faire. Le but de ces moments, c'est aussi d'apporter un peu d'amour, un peu de réconfort, un peu de chaleur, comme une grande famille entre nous, entre les gens de la commune, les gens qui viendront, peut-être des amis. Donc, ce qu'on a prévu après le concert, c'est d'offrir un espèce de petit café-thé. Donc c'est le groupe de jeunes qui fera ce service-là, qui va préparer aussi quelques petites choses. Mais on aurait besoin de petites mains pour nous aider à préparer des petites choses sucrées, des petits gâteaux. Voilà. Donc si vous avez envie de vous engager là-dedans, il va y avoir des affiches aussi au fond. Vous inscrivez votre nom et puis le soir du 6 et le soir du 20, on est engagé pour les deux soirées, vous venez avec vos petits gâteaux et puis on préparera tout ça là-bas et on servira ça à ce moment. Si vous avez des questions, vous me demandez, il y aura mes coordonnées, vous m'appelez. Voilà. Merci d'avance.
Voilà, merci. Est-ce qu'une annonce aurait été oubliée? Je crois qu'il y en a eu déjà pas mal. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous lever. Et je vous lis encore 2 versets dans Éphésiens. Éphésiens 3, les versets 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.